Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On va attaquer la troisième chronique et c'est Lame qui va nous parler des jetons non fongibles.
Les jetons non fongibles.
Pardon.
De tout temps les jetons. Ah. Alors c'est une chronique que je dédie à Fibre Tigre, puisque je sens que c'est une chronique où tout le monde va faire des facepalms ou faire des yeux un peu genre oh, ça va trop loin, et Fibre Tigre m'a dit c'est génial, on va être riche. Donc Fibre, évidemment, je te dis cette chronique. Alors effectivement, les jetons non fongibles, c'est une traduction affreuse pour un terme qui même en anglais n'est pas tip top, puisque on parle des non fungible tokens ou les NFT. On va rester sur le terme NFT, ok, ça va être
NFT,
plus simple.
NFT, d'accord.
Voilà. NFT ou Nifty, si
Nifty,
tu veux te la péter.
Nifty, voilà. C'est ça.
Tu vois, Nifty, c'est comme pour les gens qui se chamonient le Chamonix. Ils sont là genre... Oh. Regarde-moi les pauvres qui parlent de Chamonix.
On est d'accord que c'est une chronique de jeux vidéo que tu vas faire, d'accord.
C'est une chronique de jeux vidéo.
Oui, parce que...
Mais c'est une chronique de jeux vidéo, mais avec de la bourgeoisie, parce qu'il va y avoir beaucoup d'argent et de capitalisme dedans.
D'accord.
Putain, c'est son nouveau dada, ça.
Non, mais c'est vraiment... Du coup, c'est une chronique sur un sujet qui est très, très important. Puisque, et je suis assez d'accord avec les gens qui y croient, les gens pensent que ça va être peut-être une des plus grosses révolutions de business model et donc de game design du jeu vidéo depuis le free-to-play. Donc le free-to-play qui a émergé maintenant il y a 12-13 ans. Voilà. Donc on est sur un truc qui est vraiment, vraiment énorme.
Alors, qui est considéré quand même comme un cancer par pas mal de gens, dont moi par exemple. Ici,
mais qui a aidé à faire découvrir le jeu vidéo à beaucoup d'autres personnes, etc. Certes. Qui a fait exploser l'industrie. Hearthstone.
Ouais, justement, j'ai payé.
juste pour en parler, déjà évidemment la définition, évidemment du NFT, donc ce fameux token. À la base, vous avez deux types de biens, on va dire. Il y a des biens qui sont discernables et des biens qui sont indiscernables. Donc là, on va beaucoup parler de crypto et notamment de crypto-monnaie. Si on reste sur la monnaie, par exemple, si vous prenez une pièce de 1 euro, elle est interchangeable avec n'importe quelle pièce d'un euro. Qu'elle ait été émise en France, qu'elle ait été émise en Allemagne, qu'elle soit passée par 25 mains différentes ou qu'elle soit sortie de la banque elle-même, qu'elle ait un aspect différent, etc. En fait, sa valeur reste littéralement la même. Elles sont 100% interchangeables. Si vous achetez un billet de train, par exemple, c'est un élément non fongible, puisque les billets de train sont tous uniques les uns par rapport aux autres. La personne qui détient le billet, donc le nom qui est associé à ce billet, plus la date du voyage, plus la place qui vous est attribuée, etc., fait qu'un billet de train ne peut pas être remplacé par n'importe quel billet de train. On ne peut pas les confondre. Et ils sont certifiés pour ça, puisqu'il y a différents types, comme le code barre, l'hologramme, ce que vous voulez, qui rendent ça donc non fongible. Ça, c'est la différence entre les deux.
Donc c'est ça, le fongible, c'est le fait qu'il puisse être interchangeable.
C'est interchangeable, c'est pas vraiment traçable en fait. Et ça n'a pas de valeur spécifique par rapport à un autre token de la même famille.
D'accord.
Voilà. Si on veut rentrer dans les cryptos, parce qu'on va parler des crypto-monnaies, le Bitcoin est semi-fongible, attention. Donc là, il y avait saignant à point, là c'est rosé. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, les bitcoins sont des crypto-monnaies qui utilisent la blockchain, qui font qu'en fait, à chaque fois que vous émettez ou que vous minez un bitcoin ou que vous échangez un bitcoin, ça s'ajoute, l'archive de ce que vous avez fait s'ajoute dans la blockchain. Donc en fait, votre bitcoin est différent d'un autre bitcoin, mais ils ont quand même la même valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je te donne un bitcoin, Chloé, que j'ai miné, alors je ne sais pas sur quelle machine on peut encore miner un bitcoin, mais imaginons que j'ai réussi à miner un bitcoin en 2020 et que je t'échange contre un bitcoin que tu as miné en 2011, ce ne seront pas les mêmes bitcoins, ils n'auront pas le même code de blockchain et le même historique, mais ils auront quand même la même valeur. Voilà, ton bitcoin qui valait 1/10 millionième de centime il y a 11 ans, et il vaudra 50 000 $ aujourd'hui comme un bitcoin. Donc là, on est entre les deux. Donc quel est l'intérêt de mélanger le non-fongible avec la technologie de la crypto ? Et ben, c'est né en fait en 2017 notamment sur une crypto-monnaie qui s'appelle l'Ethereum, qui est la deuxième grande crypto-monnaie dans le game. Et en fait, on s'est rendu compte qu'évidemment, la crypto ne sert pas qu'à créer de l'argent. La crypto sert globalement à certifier absolument tout et n'importe quoi, et de manière quasiment inviolable. C'est aujourd'hui la grande force des crypto-monnaies, mais de toutes les nouvelles technologies crypto, c'est que on n'a pas réussi à falsifier un bitcoin, par exemple, aujourd'hui. C'est impossible, parce que plus le temps passe, et plus, en fait, votre blockchain se complexifie, se solidifie, et donc c'est de plus en plus impossible, en fait, de la pirater ou de la décertifier ou de tricher là-dedans. Alors qu'effectivement, les technologies normalement font que c'est de plus en plus facile de faire des faux billets ou de faire des fausses pièces parce qu'elles n'évoluent pas ou alors toutes les X années. Donc, on a vite compris que la technologie de la crypto-monnaie et de la crypto en général et des NFT, elle est très très utile pour beaucoup de domaines du numérique, en fait. Évidemment, l'art. Donc l'art, c'est un des marchés qui c'est le plus dévalorisé, qui n'a jamais décollé, parce que le numérique, évidemment, est-ce que vous téléchargez une voiture, le fameux proverbe de l'époque, mais évidemment, le fait qu'on puisse copier-coller à l'infini du numérique fait que la notion de rupture de stock ou de rareté n'existait pas, ou alors elle était littéralement artificielle, ou alors tu t'appelles Nintendo et tu dis mes jeux vont disparaître le 31 mars. Mais globalement, en fait, le numérique vous permettait de dire ok, on en a enfin fini avec la détérioration d'un bien ou la rareté d'un bien, on peut enfin distribuer mon morceau de musique à tout le monde sans avoir à passer par des fabricants. Mais évidemment, ça veut dire que beaucoup de choses ont perdu de leur valeur par rapport au marché normal, puisque si un jour, je m'achète une œuvre d'art numérique que quelqu'un a faite, un JPEG, rien n'empêche ensuite de mêler ce JPEG à n'importe qui. Oui. Donc voilà. Donc la notion d'édition limitée ou numérotée ou du fait que quelque chose t'appartient avait disparu. Donc évidemment, le marché de l'art s'est beaucoup intéressé à ça, et donc il y a eu un premier projet qui s'appelait les CryptoPunks, qui s'est lancé en 2017, et qui était des sortes de trucs très pixelisés avec des punks faits en 16 par 16 pixels, dégueulasses, mais dont l'image était rattachée avec de la blockchain. Et donc, il y avait une blockchain qui était créée, qui était basée sur l'Ethereum, qui faisait que ces œuvres sont uniques.
Comment ça unique? C'est-à-dire, c'est une image?
Eh ben, justement, elles sont liées avec une NFT. Ouais. Donc, en fait, elles ont un code qui te dit que dans cette blockchain, cette image, une seule image au monde pourrait être liée à ce code. Et c'est cette personne qui l'a fait. Et en fait, dans les NFT, il y a beaucoup plus d'informations qui te disent quelle personne l'a fait, par quelle historique elle est passée, à combien d'exemplaires elle est limitée, etc. etc. en fait. Et c'est inviolable. Donc là, tu as littéralement un truc où même le marché des faussaires ne peut pas exister, en fait.
C'est-à-dire que cette image, tu peux l'afficher à un moment donné.
Bien sûr. Mais
donc tu peux la screener.
Mais tout comme tu peux dire j'ai acheté des Air Jordan chez Foot Lockers. C'est le même modèle sur des usines que celle que Jordan a porté, mais quelqu'un te dira, moi j'ai l'air d'Jordan que Jordan a porté sur le parquet avec la certification.
D'accord, ok. Voilà.
Et ça de manière inviolable, 100% certifié. Et donc dans l'art, effectivement, n'importe qui peut télécharger le CryptoPunk, c'est un truc de 16 pixels par 16 pixels. C'est le truc le plus simple du monde. Mais la personne qui détient le certificat de propriété, que c'est l'artiste qui l'a fait et qui lui a donné, etc., il n'y en a qu'une seule au monde. Et ça s'est lancé en 2017, et beaucoup de gens rigolaient. Et là, il y a un collectif qui vient de le racheter pour, je crois, 600 000 $. Non, plus $1 million, d'ailleurs. Donc le prix a littéralement explosé, puisque on a redonné, un, la certification, et on a redonné, deux, la limitation, on va dire, de ça. Et c'est lié à ça. Et donc, le marché de l'art, en ce moment, est en train de littéralement exploser. Il y a des gens qui achètent des avatars ou des fringues pour 10, 15, 20 000 dollars, parce qu'ils sont liés à leur fameux tag NFT, en fait, qui les rendent vraiment non fongibles et impossibles à forger. Il y a la NBA, qui est toujours très, très maligne, qui s'est relancée là-dedans. Et la NBA vient de lancer NBA Top Shots. Et NBA Top Shot, c'est les fameuses cartes à collectionner. Vous savez, on les voyait souvent dans les films ou les séries.
Les Upper Deck, là.
Voilà, tu sais, tu collectionnais tes cartes de NBA ou tes cartes de baseball. On voyait souvent dans les films américains le mec qui avait la fameuse carte d'un batteur qui valait X centaines de dollars. Donc il y a quelques mois, NBA a lancé Top Shots avec une boîte spécialisée dans les NFT. Et ils ont fait $100 million de chiffre d'affaires en 5 mois. Ça, c'est intéressant comme chiffre.
C'est un jeu, du coup
Non, tu achètes des cartes liées à des NFT avec des raretés. Donc si à un moment...
Donc des cartes numériques que tu...
Des cartes numériques, voilà. C'est une image. C'est une image avec une jolie carte, etc. Un truc d'Hearthstone. Sauf que si t'as, imaginons, Jordan le Flu Games, elle est peut-être tirée à 3 exemplaires, ou alors elle vaut $300. Et t'as un système de code qui se fait parce que t'as pas de reproductibilité des cartes et donc ça explose. Donc le chiffre qui est intéressant, c'est que ils ont fait 100 millions de dollars de chiffre d'affaires en 5 mois, dont 60 millions de dollars en une semaine, la dernière semaine qu'ils ont compté. Donc ça a littéralement explosé, le tout avec juste encore 60 000 utilisateurs. Donc c'est vraiment...
Putain,
c'est en explosion. Le marché global, on va dire, aujourd'hui de la NFT liée juste à ça, c'est-à-dire on va dire l'art et les collectibles, il serait passé de 41 millions de dollars en 2018 à 338 millions de dollars en 2020 et on table sur les 1,3 milliard de dollars cette année. Donc on est sur des x10, c'est en train d'exploser. Donc ça, là je vous parle du marché de l'art, mais c'est quelque chose qui va aussi fonctionner avec des collectibles et c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser d'as, ça pourrait marcher aussi notamment pour la certification d'objets. Puisqu'aujourd'hui ça veut dire que si Nike émet des baskets, et que dans ces baskets, il y a un tag NFT, il est lié à la basket.
Certifie, exactement. Si tu achètes une basket à quelqu'un, avec exactement. Une
si tu achètes une basket à quelqu'un et que cette basket elle est rattachée, on va dire un QR code, une clé USB. Ouais. Si la personne ne peut pas te fournir ça, elle ne peut pas te fournir la véracité. Et ça, c'est un truc qui ne peut pas être copié. Mm-hmm. Tu peux pas le sortir des usines comme tu peux sortir des fake Easy ou des fake des baskets. Donc, vous imaginez que le marché il commence à dire ah ça commence à pas rigoler.
C'est un moyen d'authentifier inviolable en fait.
Et de plus en plus sûr avec le temps. Parce qu'encore une fois, plus les gens passent par ces blockchains, plus ça devient puissant. Alors évidemment, maintenant, je vais parler du gaming. Maintenant qu'on a un peu compris comment la crypto pouvait être utilisée et pas que pour les monnaies. Dans le gaming, on a un rapport au gaming qui est assez intéressant, puisque c'est quelque chose qu'on investit. On investit beaucoup de temps. On investit des fois beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. Et quand on arrête, on perd tout, en fait. C'est-à-dire que quand tu quittes le jeu, j'ai envie de dire, le temps que tu as passé dedans ou la valeur que tu as créée disparaît, globalement. Et donc, une des grosses idées, en fait, de la NFT adoptée au gaming, c'est de créer des plateformes de NFT qui sont liées à tous tes jeux, qui font qu'en fait, ce que tu vas faire, tout ce que tu vas faire devient un token. Ça veut dire que, je vais m'expliquer plus en détail, le jeu, ton jeu devient un token. Les objets que tu gagnes dans le jeu deviennent des tokens. Les actions que tu as, les achievements, tout devient un token. C'est-à-dire que si un jour tu joues à un jeu que tu veux le revendre, tu peux le revendre, puisque tu as payé 40 euros pour ton jeu. Il vaudra peut-être moins s'il est moins demandé, ou il vaudra peut-être plus le jour où tu revendras le jeu, mais avec tous les achievements que tu as mis dedans, par exemple. Donc en fait, tu te retrouves avec un système où ils vont redonner en fait une valeur à ce que les joueurs et les joueuses font dans le jeu. Et c'est très important parce que beaucoup de gens disent en fait aujourd'hui le jeu c'est plus une économie de location que de propriété puisqu'en fait tu arrives, tu achètes le jeu, même si le jeu t'appartient, l'expérience, t'as loué un truc, mais une fois que t'as arrêté, tout est perdu quoi. Donc l'idée c'est de se dire si t'as une plateforme où tout ce que tu fais crée de la valeur que tu peux revendre après, donc des gens qui vont peut-être jouer à un jeu, et ça existe déjà de manière détournée. Si tu joues à World of Warcraft, tu peux récolter assez de pièces d'or pour payer ton abonnement.
Complètement.
Voilà, mais c'est le balbutiement. Donc ce qui est intéressant, c'est que... ça, c'est la première couche. Vous allez voir, c'est un peu comme les histoires de police, il y a beaucoup de couches, c'est de plus en plus what the fuck, mais de plus en plus dingue. Le premier truc, c'est de se dire, effectivement, tu achètes et tu peux revendre tes jeux en token. La deuxième couche, qui est évidemment assez évidente, c'est de dire les objets que tu vas avoir dans les jeux, objets vont être tokenisés. Ça veut dire que...
Il n'y a qu'un flingue dans Counter-Strike.
Imagine que tu fais ce qu'on appelle les fameux World Event dans les Game as a Service, ils vont avoir une vraie valeur. On a vu les fameux flingues dans Counter-Strike où le temps d'un tournoi, tu pouvais dropper un fusil avec la signature d'un joueur qui était arrivé en finale, etc. etc. Ces flingues déjà ont explosé sur le marché. Mais c'est des trucs qui sont reproductibles en fait. Ils sont reproductibles. Là, en fait, il y a une certification qui fait qu'effectivement, si tu t'es rendu à un tournoi sur place et que tu as vu un joueur et que tu as été tiré au sort et que tu as eu ton fusil sniper, etc., tu auras l'exemplaire, le seul exemplaire qui peut du coup avoir des valeurs délirantes.
Et pour vérifier le caractère reproductible ou non reproductible, c'est-à-dire pour vérifier que c'est un faux ou un vrai, c'est très rapide, très facile.
Alors, c'était un des gros challenges des blockchains actuels, notamment l'Ethereum qui est aujourd'hui a des taux de transfert qui sont assez catastrophiques. Toutes les nouvelles crypto-monnaies, notamment que je vais utiliser ici, sont des systèmes qui sont très très légers en termes de transfert et en termes de vérification. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Et effectivement, quand tu vas dire à quelqu'un, je te file 3 tokens pour te racheter ton fusil sniper, de mon portefeuille certifié à ton portefeuille certifié, l'opération, elle est transparente et 100% sécurisée. Et surtout, elle est sécurisée de manière décentralisée. Alors je rentrerai après dedans, mais la grande mode en ce moment, c'est ce qu'on appelle la finance décentralisée. C'est qu'on n'aura même pas à passer par un intermédiaire de type StockX ou la Banque Centrale Européenne. C'est vraiment la certification du vendeur à l'acheteur se fait entre le vendeur et l'acheteur de manière 100% safe. Donc ça donne des... Ouais.
Objection, votre honneur.
Oui.
Mais si tout est décentralisé, comment fait Apple, par exemple, ou Google pour prendre sa commission sur les échanges qui vont se faire sur ces objets?
Ça va être une des grandes questions. C'est pour ça que c'est une très bonne question. It's a very good question, comme dirait l'Américain.
Very interesting question.
Là, en ce moment... Tous les spécialistes de la NFT, notamment dans le jeu vidéo, sont en train de dire tout ça c'est intéressant, on est en train de se jeter dessus, ça a des milliards de dollars, mais c'est un Far West. Donc là, il y a plein de projets, hein, je peux t'en citer. Donc il y a Engine, ENGIN, qui est une plateforme de crypto NFT. Il y a Ultra, qui en est une autre. Il y a Bear Games aussi, et leur intérêt à eux, c'est de dire, c'est là, ça devient vraiment intéressant, ça devient très méta. C'est qu'en gros, eux, ils vont pouvoir venir se coller comme des service cloud. À des éditeurs entiers. Et ça veut dire que les technologies qui sont très puissantes, elles vont te dire, je vais pouvoir venir me patcher sur The Division 2 de manière transparente pour toi. Tu n'as pas à recoder ton jeu, en fait. Mais par contre, on va pouvoir rééquilibrer ton jeu et faire en sorte que telle arme ou tel objet soit tokenisable, devienne un token et un token NFT. Et en fait, le but du jeu de ces plateformes, c'est de dire, on va fournir une monnaie unique à tout ça, mais ça veut dire que c'est aussi une monnaie interchangeable entre les jeux et entre les éditeurs. Ça veut dire que si à un moment, t'as cartonné sur un jeu, t'as trouvé un item de ouf ou t'as été un événement de malade, etc., tu peux revendre ce token et aller t'acheter 120 jeux sur le truc d'à côté. Donc évidemment, eux, ils se veulent... Le but du jeu, c'est pas que chaque éditeur ait son token ou chaque jeu ait son token, parce que du coup, ça n'a plus de valeur. Le but du jeu, c'est qu'à un moment, t'as une plateforme globale de NFT et qui fasse que tout devient interchangeable. Il y a aussi des trucs hyper intéressants sur le système de jeu, c'est que la notion de crafting, notamment, va devenir très intéressante. On pourrait peut-être avoir un jour des artisans, des artistes du jeu vidéo qui, dans le jeu, vont créer, par exemple, une magnifique maison de Minecraft de ouf avec un savoir-faire, du matériau, etc., qui va coûter de l'argent, du temps et de l'argent, etc. Et puis aujourd'hui, des gens sont prêts à payer pour ça, sauf que là, ce sera ta maison. Il y a aussi un truc très important, c'est que souvent, tu vas mettre de l'argent dans quelque chose qui est important pour toi. Donc Valve aussi, ça, il l'a vu un peu avant tout le monde, sans parler par les NFT, mais ils avaient commencé à vendre des objets avec des stat tracks. Ça veut dire que tu pouvais acheter une AK-47 dans Counter-Strike ou tu pouvais acheter une skin dans Dota et qui traquait le nombre de kills que tu avais fait, ou le nombre de duels que tu as gagné, ou le nombre de personnes que tu avais sauvées. Et quand tu revendais cette skin, la stat était liée à ça. Donc en fait, il y avait une énorme valeur parce que du coup, tu pouvais dire, j'ai acheté un fusil sniper qui a tué 10 000 pros en ligue globale et du coup, c'était plus la même valeur. Ou c'était quelqu'un qui dit, bah, en fait, ça, c'est le sniper que j'ai looté le jour où ma fille est née ou quelque chose qui te lie parce que la date est dedans, la possession est dedans, les achievements, tous les exploits que tu as fait avec sont dedans. Donc tu peux dire, j'ai acheté un objet Diablo, c'est cette épée-là, c'est une épée de level 1, mais le mec, il a tué les 5 boss en hardcore avec cette épée de level 1 et c'est inscrit dans son NFT, en fait.
Donc, c'est un genre de juste record tracker sur les objets in-game auxquels, d'habitude, on n'accorde aucune importance.
C'est un record tracker, c'est une monnaie et c'est un système de sécurité en même temps, de certification en même temps. Les trois assez infaillibles. Et donc, c'est très puissant parce que c'est quelque chose qui n'était pas possible dans le jeu vidéo avant. Et aussi parce que les jeux ne se parlaient pas, les technologies ne se parlaient pas. Là, c'est quelque chose que tu peux appliquer, en fait, un peu n'importe où. Et il y a aussi des gens maintenant qui sont en train de dire, est-ce que tout le game design et le business model de jeu va changer avec les NFT? C'est possible, parce que, par exemple, un des grands rêves des pros NFT, c'est de dire, tu vas avoir une interopérabilité entre les jeux. Évidemment, si un jour Kennedy, le tout premier Shiny que j'ai looté dans ma vie, ça fait 20 ans que je me le trimballe, mais de jeu en jeu, il est toujours là. Et puis en fait, il a vécu des aventures incroyables. Parce que c'était le premier Shiny, j'avais 17 ans quand j'ai chopé. Il a fait ça, il a participé à ce tournoi, on a vu cet événement, etc. Il a une valeur immense. Il a une valeur monétaire immense, mais il a une valeur sentimentale immense. Il est unique, ce Shiny. Et si un jour tu veux le même, c'est le jour auquel le lèguera ou le donnera à quelqu'un ou le vendra, mais en fait, il est unique. Et ce que les gens veulent, c'est qu'en fait, les objets deviennent interopérables entre différents jeux.
Donc c'est qui transcende les plateformes, en fait.
Donc ouais. Par exemple, dans Diablo, il peut y avoir des problèmes parce qu'évidemment, dans Diablo, si ton épée level maximum, tu veux l'emmener dans Diablo 2, mais en fait, tu vas aller dans Diablo 2 trop puissant. Donc il peut y avoir des systèmes qui fait que, un peu comme dans Breath of the Wild, t'as ta maison chez toi avec des trophées et tu peux retrouver évidemment tes épées telles quelles, mais mec, le rendu qu'elles avaient, par exemple. Et à côté, tout le truc, toutes les aventures, t'as fait 300 heures avec, t'as tué 2000 ennemis, t'es mort 2 fois, elle a sauvé la vie de tant de personnes, etc., etc. Donc ça te donne des possibilités assez énorme en termes de business. Parce que vous imaginez déjà entre les joueurs, il va y avoir des vrais professionnels du jeu vidéo qui vont peut-être aller looter des trucs, etc., pour les revendre, etc. Et en termes de game design, ça peut aussi tout changer, puisque en ce moment, tu changes ta manière de vendre le jeu. Parce que qu'est-ce que tu fais lorsque les joueurs commencent à créer de la richesse qui leur sert? Aujourd'hui, le problème, c'est que quand tu crées de la richesse en tant que joueur de jeu vidéo, globalement, à part 2-3 moyens détournés, genre de vendre un truc sur eBay, la richesse revient à l'éditeur. Tu vois, et quand tu quittes le jeu, tu perds tout. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu crées une richesse que tu peux transporter d'un jeu à un autre? Tu dois revoir absolument toute la chaîne. C'est juste que il y a un truc qui est assez.
Mais quel est l'intérêt de l'éditeur de faire ça?
Justement, c'est ma question aussi.
Alors, c'est un peu comme le free to play, c'est qu'il va y avoir des vraies résistances. C'est que il y a beaucoup d'éditeurs qui avaient résisté au free to play, qui avaient dit fuck it, et puis après qui s'y sont mis. On va dire Activision,
parce qu'ils voyaient leur avantage. Ouais. Là, ta solution, je vois l'avantage qui semble assez gigantesque du côté du joueur, mais ça a aucun intérêt pour un éditeur. À part si effectivement il peut sucrer au passage sur les transactions.
Alors évidemment, tu vas avoir des frais de transaction qui sont en général minimes. Un des gros intérêts des crypto-monnaies, c'est qu'évidemment, c'est beaucoup plus simple de transférer $1,000 d'une crypto-monnaie à une autre, on va dire des crypto-monnaies modernes, que d'envoyer ça via un virement SEPA avec 48 heures d'attente et 7 € de frais de transfert de ta banque. Donc évidemment, les frais d'échange vont s'écrouler, mais la masse d'échange va exploser en fait. Et ce qui risque de se passer, c'est comme pour le free to play, c'est que il y a des éditeurs qui vont bouder ça, et il y a des gens qui vont arriver, dans des éditeurs natifs qui vont arriver avec ce modèle dès le début et qui vont les baiser. On l'a vu avec notamment Dena au Japon, qui est un éditeur de jeux mobiles. Ouais. Ils sont arrivés avec des jeux de téléphone, ils ont été vus de haut par tout le monde, et en fait ils se retrouvent comme plus gros éditeurs de jeux au Japon. Si Nintendo dès le début avait préempté le mobile et le free to play, on n'en serait pas là. Riot n'aurait pas existé si dès le début le modèle du free to play des MOBA avait été préempté plus tôt par Blizzard et par d'autres. Donc le système de NFT fait qu'en fait, on va faire exploser le business model des jeux vidéo.
De certains types de jeux aussi, parce que...
De quasiment tous les types, en fait. Parce que même ton jeu en lui-même est un token, donc tu peux même revendre ton jeu. Donc ton système de vente et d'achat de jeux, est-ce qu'il y a des gens qui vont dire...
Il faut qu'il y ait une... Enfin, sous-entendu, par exemple, si tu dis Ken, il a... je parle même pas de l'objet in-game. Je parle de, par exemple, la copie de Pokémon qui est certifiée, celle qu'il a utilisée quand il a eu son premier shiny, machin, etc. C'est une valeur qui reste celle que Ken donne au jeu. Moi, en fait, je m'en fous que Ken il ait trouvé son premier shiny sur cette copie-là.
Des gens, non.
Moi, je m'en fous de Jordan porté par mon cul, ma bite, tu vois. C'est normal.
La Jordan portée par Jordan, elle a une vraie valeur sur le marché. Jeu Pokémon qui a servi à Ken Bogard pour...
Quelle est la valeur sur le marché de... C'est même l'inverse. La Jordan portée par Jordan, le produit, il est abîmé.
Donc ouais, en fait, bien sûr.
Bah voilà,
non, mais elle a une valeur parce qu'il y a le fait que le vrai joueur réel qui est une superstar a vraiment joué avec cette paire.
Quelle est la différence avec le Pokémon de Ken, ou quelle est la différence avec l'arme de Ninja?
En fait, c'est-à-dire que le Pokémon de Ken, c'est un nobody, tu vois. Donc en fait, quel est l'intérêt pour moi, en tant que joueur, d'acheter une version de Pokémon plus chère, parce que simplement Ken Bogard y a joué?
Parce que je disais Ken, parce que c'est une star de Pokémon. Très bien. Alors imaginons que Ninja, qui est le joueur le plus populaire du monde, décide de dire, ok, c'est avec cette skin que j'ai gagné championnat du monde, je la mets aux enchères.
D'accord. Donc en fait, c'est un truc qui est tourné vers le celebrity gaming.
Et... Non, pas forcément, parce que
partie tracking individuel du truc et ce que tu évoquais, c'est-à-dire une place centrale et neutre où en fait se déverse tout ton historique en tant que gamer, etc. Je comprends le truc, même sans
parler d'historique. Imagine, je sais pas, on fait exactement comme les sneakers. T'as une paire de pompes qui est distribuée dans NBA 2K à 300 exemplaires. Exactement. D'accord, elles sont distribuées, donc elles ont été distribuées tel jour, telle heure à 300 exemplaires. Elles n'existent que dans ce jeu là aujourd'hui. Bon, bah c'est des valeurs numériques. Une paire de pompes, t'en fous, j'installe la bombe, j'installe la mod, je mets ma paire de pompes sur mon PC, j'en ai rien à foutre.
Bah
oui, mais non,
en fait,
justement, si elles sont marquées et sécurisées comme étant officielles, originales,
elles ont une valeur.
Oui, mais en fait, actuellement, qu'est-ce qui empêche 2K Games de faire exactement ça, c'est-à-dire d'avoir simplement un item disponible à 300 exemplaires dans le jeu.
Cet item, il y a pas de bonnet derrière. En fait, là quand je te parle
là,
de
le seul intérêt
quand je te parle de Engine ou de Ultra,
c'est pour le revendre.
Mais en fait, c'est tout en même temps. C'est qu'en fait, ce tag cette NFT.
C'est en fait, il n'a une valeur que dans le cadre d'une transaction monétaire entre deux joueurs.
Oui, mais.
Enfin, il a une valeur sentimentale pour toi parce que c'est un archivage et il a une valeur ensuite de transaction, évidemment. C'est comme si t'arrivais avec ton pédigré en disant, bah, effectivement, donc, j'ai cette épée de cloud dans FF7 avec toutes ces matérias que j'ai mis 300 heures à voir. Aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui revendent des profils Xbox avec leur achievement. Et ça se vend très cher. Il y a des gens revendent des persos de MMO.
Ouais, mais en fait,
c'est exactement la même chose. Il y a un temps de travail qui est là.
Tout ça, c'est du marché gris, marché noir.
Non, parce que l'intérêt, c'est que tout ça, du coup, c'est officiel.
En fait, je vois toujours pas l'intérêt de l'éditeur là-dedans parce que c'est des transactions qui passent à côté d'eux. Ils vont pas capter l'argent.
Ça va être encore une fois le rôle des éditeurs ou pas de dire à combien on taxe les transactions, puisqu'ils ont évidemment ils ont droit de taxer les transactions oui ou non, et ça va être une bataille de un moment. Moi, j'y crois très fort parce que on investit tous énormément de temps et d'argent dans des jeux, et si à un moment il y a un système qui nous permet de créer de la valeur avec ça, ou de créer des souvenirs avec ça, ou de un jour je dis à Daz, tu te rappelles, ça fait 10 ans qu'on joue à Sea of Thieves, tu te rappelles cette jambe de bois? C'était un premier truc qu'on avait truc il y a 2 ans, je te l'offre, elle vaut rien, mais en fait, tu te rends compte, c'était des trucs il y avait 10 ans, c'est CL encore, tu vois, il y a une valeur sentimentale, donc il y a de la valeur en général. Et je suis assez persuadé que, déjà, vu comment les joueurs et les joueuses de jeux vidéo peuvent dépenser, donc, dans du in-app purchase, dans du vanity, dans du collector, parce qu'il y a, il y a quelques collecteurs qui sont en train d'arriver, le tout sans qu'il y ait de soutien et de réelle valeur pour eux, donc c'est de la dépense pure qui ne va qu'à l'éditeur, c'est un moment où on leur dit ça, il va y avoir une vraie structuration de ça, et encore une fois, on revient à un système de propriété dans le jeu vidéo et pas de location dans le jeu vidéo, de propriété pour les joueurs.
Ouais.
En fait, l'engouement va être tellement fort que même si un éditeur historique boude, on s'en fout parce qu'un marché va exploser. Donc l'éditeur, encore une fois, c'est la même chose. En 2008, le free-to-play a explosé en Asie, puis après en Europe. Bien sûr que c'était aucun intérêt pour les éditeurs à l'époque. Je veux dire, Blizzard était là, mais attendez les gars, je fais payer $12 par mois pour un MMO. C'est quoi ce MMO correct qui fait payer 0?
Il y avait quand même un intérêt parce qu'il y avait de l'argent qui rentrait sur leur compte.
Mais là, tu vas pouvoir le faire. Et puis encore une fois, le truc, non, c'est mais... qu'il n'y a pas de somme nulle, c'est qu'à un moment, pour accéder à ces univers, il faut que tu payes quelque chose. Ça veut aussi dire que un truc qui est très important, c'est que la rétention des joueurs, notamment pour remplir des serveurs. Si un joueur a dit, bah, en fait, j'ai un peu fait le tour de Diablo, mais je continue à jouer pour fabriquer des objets, ça fait vivre ton jeu aussi. Ça a une vraie valeur. On sait aussi que le nerf de guerre des jeux vidéo multi, notamment, c'est de remplir ton serveur de Battle Royale. Il faut bien qu'il y ait 100 personnes en moins d'une minute, sinon j'en se casse. Il faut que tu rencontres des adversaires. Il faut que tu aies des gens qui fassent vivre ça. Donc, en fait, t'as un système de rétention pour l'éditeur qui est déjà très fort et qui, c'est très dur.
Alors,
je peux même pas valoriser ça et personne peut le faire aujourd'hui. Oui.
Je me fais l'avocat du diable,
bien sûr.
Est-ce que vous croyez pas que ce système risque en fait d'encourager les côtés les plus dark du gaming, en fait, c'est-à-dire justement course au vanity, au collectible?
C'était mon point suivant, c'est qu'en fait tu fais revenir l'économie réelle, le capitalisme réel dans le jeu vidéo.
C'est Diablo 2. Hein.
Non, mais par exemple, moi, tu vois, les skins Counter-Strike qui s'échangent à prix d'or via Steam, mais qui se cèdent sur Steam, mais qui s'échangent avec des transferts d'argent, etc. C'est quelque chose, en fait, je trouve pas ça forcément super glorieux, ou en tout cas super sain. Parce que ça veut dire que tu rajoutes une notion de valeur réelle dans un univers qui était théoriquement exempt de toute fonction monétaire et fiduciaire, et en fait tu rajoutes, je trouve, le pire de ce qu'est le monde réel dans un divertissement.
C'est une des limites, et c'est pour ça que vraiment on en est qu'au début. Ouais. Et qu'en fait, ça, il va y avoir un Far West, et que pour l'instant, c'est très capitaliste.
Je comprends tout à fait, et je trouve ça chouette, le côté almanac, historique, record vraiment personnalisé, ton profil, tes trucs, ce que t'as fait, tes objets, etc. Je trouve ça super chouette, mais en fait, la puissance du truc sur le côté financier.
Ah, mais c'est pour ça que je vous dis. En fait, ce que je vous dis, c'est que ça va être le plus gros chiffre de business model dans le jeu vidéo dans les prochaines années.
Ouais.
Et donc, le plus gros chiffre dans le game design et la conception même des jeux vidéo. Tout comme aujourd'hui, quand on regarde les games as a service, on voit comment tout le game design d'un jeu vidéo a changé pour être un système de boucle de renouvellement constant. Ça a changé de A à Z. Et là, ça va être la même chose.
Le game as a service, qui est d'ailleurs pour certains, moi personnellement, je m'épanouis dans The Division, à tirer des bastos partout, mais je comprends que c'est un mode de fonctionnement qui puisse hérisser les poils de plein de gens,
bien sûr.
Mais je veux dire, pour te garder dans le jeu, les games as a service, t'as des événements, t'as du contenu supplémentaire. En fait, t'as quand même une relation de éditeur vers joueur, c'est-à-dire je te propose du nouveau contenu, reste et joue.
Mais là, ça va être la même chose. En fait, si un éditeur dit on a un world event, on va dire c'est le Nouvel An Asiatique.
Ouais.
Donc, ça veut dire que le Nouvel An Asiatique, si vous jouez à The Division, au lieu de gagner des dollars, vous allez gagner des enveloppes rouges, par exemple. Tu vois, ouais. Et au bout de 1000 enveloppes rouges, j'aurais peut-être une skin toute rouge pour un machin, etc. L'éditeur était engagé.
Ils peuvent le faire aujourd'hui sans NFT.
Tu seras d'autant plus engagé quand tu sauras que peut-être que ton item collector vaudra de l'argent ou sera non falsifiable, ce que tu veux.
Et c'est là que tu rajoutes du coup cette notion de potentielle transaction.
Bien sûr. Mais le but, et ce que j'espère, c'est que tout comme il y a des gens qui jouent à des free-to-play sans mettre un sou dedans, tout comme il y a des gens qui jouent à des games de service sans se prendre la tête à essayer d'être toujours level max, achète une nouvelle extension et qui jouent pépouze, il y a des gens qui vont peut-être continuer à jouer à Diablo, je t'en dis, en fait, je vais faire du 9h-18h tous les jours pour farmer Diablo et revendre des objets sur des auction house,
bien sûr. Ça, le truc, c'est que
ces gens l'existeront, mais les joueurs normaux, pour eux, ça change rien. Ils auront leurs objets avec leurs tractations, leurs items. Peut-être qu'ils auront acheté les objets. Il faut pas se mentir. 90% des objets, ça va être des trucs qui vont se vendre pas cher, en vrai. Et dedans, il y aura des trucs très, très collector.
Non, mais quand tu vois, justement, je sais plus si c'était sur quel MMO ça s'est arrivé, mais les premières fois qu'il y a eu des fermes de notamment en Chine.
Ouais.
Avec des gens qui farmaient du gold.
Tu vois, en fait, les gens créaient de la richesse et de la transaction.
Là où il y en avait pas.
En se démerdant.
Donc ça veut dire que, imagine le jour où il y en a.
Exactement.
Mais ça veut dire qu'il va même y avoir du trafic. Non. De la traite d'esclaves.
Non, parce que par exemple, si justement tout le sentimental et le prestigieux revient en tête, tu vas pas dire je me suis acheté une armure de ouf parce que je l'ai acheté à un petit gamin qui a été ça vient de Shenzhen et ça a été fait par un gamin qui est dans une gaming house, parce qu'en fait c'est dévalorisé.
Ouais.
En fait, vu que t'as un pédigré maintenant autour des objets, de ce que tu crées, si à un moment c'est, imagine Ken qui a eu ce fameux Pokémon et il a réussi à le trouver en shiny dans toutes les versions, et du coup il a une sorte de portée de Pokémon dans toutes les versions, etc. Et puis en même temps c'est Ken Bogard, il est connu dans le milieu, etc. C'est évidemment pas la même chose que si j'ai demandé à un petit farmer, un petit gars de 15 ans à l'arrache, de me faire la même chose. Ça n'a pas la même valeur. Et c'est justement ça l'intérêt. C'est que les gens qui vont dire je vais fermer le truc à l'arrache, en fait, ces gens-là qui existaient, en fait, n'existeront plus, parce qu'ils vont perdre de la valeur. Et c'est aussi important.
Ça, c'est le même pari que les dealers disparaissent si on légalise la drogue, tu vois. Ça peut marcher, ça peut aussi backfire de manière épique.
Non, mais et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc là, dans le marché de l'art, c'est assez incroyable, parce que le marché de l'art est en train d'exploser grâce à ça. Et ça va permettre, je pense, à toute une nouvelle race de joueurs et de genres de joueurs, encore une fois, qui seront notamment des artisans ou des artistes, d'exister dans le jeu. Et ça va être hyper intéressant, je pense, de dire effectivement t'es dans un jeu de survie où tu dois crafter dans tous les sens, et quelqu'un va trouver un gros diamant, et quelqu'un qui va passer des heures à le tailler pour faire un truc vraiment stylé, etc. Et puis ça va devenir un vrai bijou virtuel qui aura été taillé par cette personne, et tu auras vu qu'il a été taillé pendant 17 heures machin, etc. Et qu'il y en a un dans le monde équivalent, etc.
Donc au final, là, c'est vraiment l'utilisation de la blockchain pour donner de la valeur à des objets qui sont strictement numériques et qui donc théoriquement sans cette traçabilité
n'aurait pas de valeur
à l'infini.
Exactement. Il n'aurait pas de valeur. Et là on le voit, il y a notamment des marques de luxe de fringues qui commencent à faire des fringues virtuelles pour tes avatars dans des jeux ou pour Instagram, et qui vendent ça avec des NFT attachés. Donc ça coûte très cher.
Et c'est chaud, parce que ça veut dire que le jour où l'industrie du disque, qui est quand même pas l'industrie la plus portée sur l'humanisme globalement, tombe sur ce truc-là, ils peuvent verrouiller le marché de manière ultra violente.
C'est le truc du capital, c'est que si c'est un truc qui est trop verrouillé, les gens iront pas. L'intérêt, alors après, je vais pas rentrer dans tous les détails de la crypto-monnaie et de la finance, mais un des grands intérêts, c'est aussi ce qu'on appelle la liquidité et la décentralisation, qui fait que normalement, on est en train d'enlever toutes les barrières et tous les monopoles et toutes les centralisations. Ce que les crypto-monnaies essaient de faire aujourd'hui, c'est de dire, on veut mettre fin à la centralisation des monnaies et faire en sorte que la liquidité est totale. Ça passe de l'un à l'autre avec un minimum d'intervention d'une entité de type éditeur, studio, major, etc. La règle, c'est que si quelqu'un est beaucoup trop contrôle fric, son système ne marchera pas, en fait.
Ouais, non, mais ce qui va se... Enfin, c'est-à-dire que concrètement, pour les gens qui aiment bien zoulouter des albums et qui actuellement se retrouvent parfois avec des fichiers rares, avec un mot de passe, et t'es bien emmerdé quand tu l'as trouvé sur Internet par terre et que tu veux l'ouvrir... T'auras exactement la même chose. Les mecs, ils peuvent potentiellement tuer le piratage. Ce qui est une bonne chose d'un point de vue capitaliste. Ce qui m'emmerde profondément d'un point de vue utilisateur.
Non, en fait, rien ne t'empêchera d'écouter la musique. Par contre, si tu veux, tu vois, là, Shawn Mendes a mis en vente une reproduction numérique de la tenue qu'il a portée à un concert à Mexico et une de ses guitares. Et sa guitare, c'est une modélisation 3D de sa guitare. Elle est un exemplaire en NFT.
D'accord.
Ça, ça t'empêchera pas d'écouter la musique de Shawn Mendes.
Oui, pour évidemment. L'instant, parce que là, c'est sur des collectibles, mais quand ils arriveront au cœur du truc en disant, mais attends, ça veut dire que je peux sécuriser la lecture de la chanson.
Oui, mais ils se prendront un mur immédiatement, parce qu'en fait, ça, c'est un truc qui est fini. C'est qu'aujourd'hui, tu peux plus dire, je vais mettre ma musique derrière un paywall ou un machin. Par contre, tu peux faire en sorte de dire, les gens qui étaient là à mon concert, ou les gens qui veulent acheter des collectibles de moi, je les donne en plus, mais c'est la musique ou le contenu en lui-même, les jeux vont pas devenir des jeux verrouillés. Si t'as pas payé 1000 euros pour entrer dedans.
Alors bon, je t'écoute depuis tout à l'heure, je dis trop rien parce que je n'ai pas envie de trop, mais déjà sache que le principe d'unicité des choses, je trouve ça génial et je vous invite à écouter en tout cas l'épisode de Trajectoire, un autre podcast de qualité qui j'espère
reprendra un jour,
où je parlais justement de la façon dont créé le jeu Pokémon et dont on crée les Pokémon. Les Pokémon ont été créés à l'époque pour être pensés comme étant unique. Enfin, Game Freaks avait essayé de réfléchir à un moyen d'unicité du Pokémon. C'est-à-dire que le Pokémon que Jean, tu vois, en école primaire attrape sur sa cartouche de Pokémon bleu, ce ne soit pas le même que le Pokémon de Hitoshi, jeune japonais qui attrapait son Pokémon sur sa version Midori.
Qu'est-ce qui change
Le lieu où tu l'as attrapé, l'heure où tu l'as attrapé.
Chaque dresseur Pokémon a un Pokémon ID qui est généré aléatoirement et qui est associé à un calcul sur Game Boy qui était de 8 bits. Chaque Pokémon attrapé a un Pokémon ID, voilà, qui est aussi lié à un code en 8 bits et à un identifiant caché qui est lui aussi lié à un code en 8 bits. En faisant des combinaisons de codes en 8 bits, on peut déterminer absolument toutes les stats du Pokémon, les lieux, les machins. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même si on est passé à 16 bits de calcul dans les nouvelles versions, 16 bits de calcul à décrypter, c'est très rapide. Et
les cryptos, c'est 256 bits.
Voilà. Et en vérité, un Pokémon peut avoir son caractère unique, mais tu vois, tu peux quand même trouver un moyen de casser, de décrypter ton Pokémon. Mais cela dit, Game Freaks a toujours donné, depuis la troisième génération, la possibilité de prendre ton Pokémon que tu as attrapé dans Ruby Saphir et de l'importer dans toutes les générations, encore et encore et encore. Le problème, c'est que même malgré les distributions et tout ça, il y a énormément de gens qui ont réussi à reproduire les cartouches de distribution et à refaire des distributions qui ne sont pas vraiment des distributions officielles et sont arrivés sur le marché des tas de Pokémon faux. Et aujourd'hui, la guerre est vraiment, vraiment de savoir quel Pokémon est authentique, quel Pokémon ne l'est pas. Et pareil, sur tes Pokémon, t'as la traçabilité. Tu sais quel jeu il a fini, quelle ligue est-ce que t'as remporté avec ton Pokémon. J'ai des Pokémon que j'importe depuis la sixième génération.
Et donc qui ont une valeur immense pour toi.
Et qui ont une valeur incroyable pour moi. Et je suis sûr qu'ils ont une valeur monétaire juste folle. Si Pokémon Company arrivait à crypter ses Pokémon tels qu'ils ne soient vraiment pas réplicable, ouais. Ce serait génial. Maintenant, et je rejoins Daz, pourquoi monnaie ? Ce qui est intéressant, c'est le cryptage. C'est pas là.
Pourquoi l'argent
monnaie ?
Mais parce que vous êtes des
idéalistes. On s'en fout de ta monnaie. Mais
évidemment.
On s'en bat les couilles. C'est juste le système de crypto qu'il y a derrière. J'ai fait de la crypto quand j'ai fait des études de mathématiques. Je sais comment ça fonctionne. Tu peux crypter des données sans avoir à foutre de la monnaie.
Évidemment.
Ils auront de la valeur aussi, puisqu'ils sont cryptés de toute façon.
Sauf que là, en fait, les deux fonctionnent avec le même token ou la monnaie. Si un jour, imaginons que, Engine, c'est une des plateformes de crypto NFT dédiées au gaming les plus connues. Si un jour Engine s'impose comme la monnaie, ou Ultra, qui est un autre, et leur monnaie, c'est l'UOS, ils s'imposent comme la monnaie, en fait. Du coup, aussi, t'as une liquidité entre toutes les choses. C'est-à-dire qu'en fait, ce que t'as fait avec tes Pokémon, si un jour tu veux te lancer dans autre chose,
tu troques.
En fait, aujourd'hui, ta valeur dans tes Pokémon, elle n'a d'autre valeur que d'échanger ou de filer ta cartouche Pokémon, de d'échanger des Pokémon dans le jeu. Si un jour ta valeur Pokémon, elle a une valeur pour te lancer dans Monster Hunter plus tard dans autre chose,
oui,
là, en fait, le potentiel, il explose.
Elle l'a déjà avec la monnaie qui existe. Tu crois que ma cartouche de Pokémon, elle a pas de la valeur, que Daz dise tout ce qu'il veut. Je t'assure qu'elle a de la valeur.
Mais bien sûr qu'elle a de la valeur.
Et qu'après, je pourrais racheter ce que je veux avec.
Mais sauf que tu bidouilles. C'est-à-dire qu'en fait, t'es en train de dire, j'envoie ma cartouche, fais-moi d'abord un virement, je regarde s'il arrive. Non, envoie-moi c'est pas clair.
C'est la fluidification des échanges.
Sécurisation et liquidité.
On en revient à ce que dit Chloé, quel est l'intérêt pour l'éditeur ?
Eh ben, l'intérêt pour les éditeurs traditionnels, c'est comme pour... Mais en fait, c'est comme si je te disais, les gars, je viens de découvrir Napster, et quelqu'un va me dire, c'est quoi l'intérêt pour les majors ? Ben, évidemment, les majors actuelles, elles n'avaient aucun intérêt à ce que Napster existe. Par contre, Napster a fait exploser les codes du business de la musique. T'as d'autres labels ou d'autres gens qui ont trouvé l'économie qui était autour, notamment des gens qui vendent des casques, des gens qui vendent des concerts parce que le marché des concerts a explosé, des gens qui vendent des iPods, etc. Et les majors qui n'ont pas voulu le voir se sont fait éclater. Dans le jeu vidéo, il y a eu un redistribution des cartes avec beaucoup d'éditeurs qui sont avec le free-to-play ou le in-app purchase, ou le mobile, parce que d'autres éditeurs ont dit, c'est quoi mon intérêt d'être dans le mobile ? Qu'est-ce que je vais vendre un jeu de 2 euros ? Alors je vais vendre 70. Et il y a des gens qui ont fait des fortunes. Non, parce qu'il y avait une demande.
Et là, l'intérêt pour les éditeurs, je le vois, je le perçois effectivement quand tu l'expliques.
Tu vas avoir une implication de tes joueurs qui va être immense. Imagine que t'as Blizzard avec une monnaie dans tous les jeux, toutes les communautés Blizzard interchangeables. Imagine le taux de rétention des joueurs dans les
Bizarre. Mais c'est ça, mais en fait, moi, quand on parle de taux de rétention, en fait, en tant que joueur, tu vois, c'est vraiment de la science, du social engineering, des mathématiques appliquées pour rendre les joueurs captifs. Et en fait, là, c'est l'intérêt du joueur que je perçois pas, en fait. C'est au contraire. Bah c'est le concert,
l'intérêt
truc.
Du joueur, c'est encore une fois d'échanger de la valeur ou de créer de la valeur.
Mais pourquoi vouloir. L'intérêt d'un jeu, c'est justement.
Il y a plein de gens qui vont dire je vais jouer un jeu, j'ai financé mon abonnement, j'ai financé mon prochain jeu avec ce que j'ai fait dans ce jeu, par exemple. Et ça m'intéresse beaucoup de gens parce que c'est une barrière pour beaucoup de personnes de payer.
Le problème, c'est que de la même manière qu'on a maintenant tout plein de jeunes avec des idées de start-upers où en fait leur premier truc c'est de dire j'ai une méga idée, faut que je fasse ma start-up pour pouvoir me vendre tout de suite à des grands pontes du secteur. Là, ça veut dire qu'il y a des gens, en fait, tu rajoutes vraiment un côté. Transaction et potentiel retour sur investissement en termes de temps passé.
Mais qui existait déjà d'une certaine manière, c'était du bricolage. En fait, quand des gens se revendent.
Pas sur tous les jeux, par exemple, tu finis un Mario, cool, j'ai joué, je suis content.
Mais non, mais t'as des gens qui revendent des cartouches Mario de 500 000 dollars parce que c'était la première cartouche Mario. En fait, je veux dire.
Oui,
gens...
non, mais ça, c'est autre chose. C'est pas lié à ton expérience de jeu.
Tout ce qui est
jeu.
Physique, de toute façon, est authentifié.
Bien sûr.
En fait, le truc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça dévoie le principe même du jeu vidéo qui est effectivement de dire là tu vois j'ai passé 42 heures sur Battlegrounds en une semaine, je considère pas ça comme du temps perdu, je me suis amusé mais c'est pas du temps que je dois absolument rentabiliser.
Ce que je veux dire, c'est que non seulement t'auras pas perdu du temps mais en plus t'auras pu créer de la valeur sans changer ton
habitude
de
jeu.
Je vois,
si ça peut te payer des paquets de cartes d'Hearthstone.
Parce que ça reste
dans le jeu.
Oui, mais en tout cas, c'est ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les free-to-play et les games as a service te font passer du temps de labeur pour te créer de la valeur. Donc, vas-y, fais tes daily quests, Hearthstone, fais ton battle pass.
T'as des gold,
s'il te plaît, fais 50 headshots, tu vas avoir un paquet. Donc, en fait, t'as un système de carottes et de bâtons qui existe déjà, en fait.
Mais c'est une économie fermée. C'est-à-dire que, effectivement, ça me sert à pousser plus avant le plaisir que je vais prendre dans le même titre. Mais par contre, dire je rentabilise le temps passé sur Hearthstone, comme ça potentiellement si je me mets sur Runeterra, je commencerai pas de zéro et je partirai un peu plus en avant.
Il y a beaucoup de gens, ça les attirait de dire en fait j'ai pas à regrinder, à repayer de zéro. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent j'ai mis 2000 euros dans Hearthstone au bout de 10 ans, j'arrête Hearthstone pour faire un nouveau jeu, mais Hearthstone ne vaut plus rien.
C'est comme les gens qui achetaient sur les jeux EA directement le niveau maximum. Enfin tu vois, quand EA avait décidé de faire, je sais plus si c'était EA, mais c'était un éditeur américain qui avait décidé de faire en sorte que si tu payes, 2K par exemple, 2K Sports.
Oui.
Si tu payes, t'as pas besoin de grinder. Mais en fait.
C'est pour ça qu'encore une fois, des gens vont tenter des trucs foireux. Et même là, les gens qui sont les plus gros promoteurs de la NFT pour le gaming, ils disent c'est un Far West. Ils disent en gros, on est au niveau de l'iPhone en 2008 quand ils ont commencé à mettre le store et quand t'as eu les premières applications gratuites et les in-app purchase et les publicités. Les gens vont tenter des trucs et ça va dans tous les sens. Mais aujourd'hui, les trucs de NBA 2K ou les trucs de grind abusé ou les lootbox, il y a eu une grogne des joueurs et le marché a dû se re-régler pour dire en fait, les lootbox qui étaient une manière de créer de la rareté. Parce qu'encore une fois, ton fusil sniper avec un dragon dégueulasse qui vaut 1500 balles sur le Counter-Strike, il est illimité en quantité, c'est juste que la rareté elle est créée par le système de RNG de hasard. Mais il crée un système de rareté pour créer un système de valeur. Je trouve beaucoup plus juste d'avoir un système de valeur qui est créé sur une monnaie décentralisée que sur un système de lootbox ou de jeux de hasard, par exemple.
Ouais, tu vois, mais en fait, c'est parce que c'est une boîte de Pandore, le truc. C'est-à-dire que pour des effets positifs qu'on arrive à visualiser, il va y avoir potentiellement des effets de bord de ouf et potentiellement des crunchs monstrueux.
Et c'est pour ça que j'espère qu'encore une fois, les joueurs et les joueuses, mais tout comme dans le marché de l'art, tu pourras avoir des abus. En fait, les gens qui abusent, qui partent dans tous les sens, là, des gens qui disent, je vais me créer ma monnaie exclusive. Genre, je suis Perrotin avec la galerie Perrotin. Ok, je suis la plus grande galerie du monde. Du coup, ce sera le Perrocoin Et si tu n'achètes pas en Perocoin, tu ne peux rien acheter. En fait, il se fera défoncer la gueule. Parce qu'en fait, personne n'adoptera sa monnaie. Le Bitcoin fonctionne parce que c'est en train de devenir une valeur refuge qui est utilisée par tous les pays, par exemple, tu vois. Et c'est pas genre le Bitcoin ne fonctionne qu'en Suède si t'as une connexion ou un machin. Ouais. C'est, voilà. Et là, l'intérêt de ces plateformes, et celle qui va y arriver, ce sera le jackpot pour elle, je suis 100% d'accord. Si une de ces plateformes de NFT arrive à s'imposer et à devenir pervasive et à devenir le AWS de la crypto pour tous les plus grands éditeurs, bien sûr qu'ils seront milliardaires. Il y a un business qui va se créer. Ils vont créer des trucs très intéressants, je pense. Il y aura des opportunités qui vont être nulles à chier, comme dans tous les trucs de la Terre. Aucun souci. Moi, le free-to-play... et le Game of Thrones, ça crée des trucs merveilleux, des trucs nuls à chier, évidemment.
Et évidemment. Bah, dans tout ça, donc les fameux jeux solo PlayStation, c'est quoi leur valeur? C'est quoi leur valeur?
Je pense
qu'il n'y en a plus, en fait. Leur, tu vas taper que des jeux avec des collectibles, en fait.
Ouais, LeBron James a joué à ce jeu. Bon, à part ça, c'est quoi la valeur? On s'en fout.
Tu
ne crées aucune valeur dans le jeu, donc si tu ne crées plus de valeur dans le jeu, ton jeu n'a plus d'intérêt. Donc c'est terminé The Last of Us.
C'est le même débat qu'à l'époque où les MMO sont arrivés et les jeux multi sont arrivés en disant, du coup, les jeux solo, c'est mort. En fait, encore une fois, le jeu vidéo, c'est un truc qui s'étend. Ça veut dire qu'en fait, les nouveaux genres ne tuent pas forcément les anciens. C'est pas ça qui tue les anciens.
C'est pas ça le truc.
Donc, les jeux solo Sony, qui sont une conception très à l'ancienne, c'est une conception qui a 20 ans, ils marchent toujours, parce qu'il y a toujours de la demande. En fait, le marché, c'est pas parce que tu rajoutes une possibilité que le marché n'est que sur cette possibilité.
Si tu prends l'arrivée du free-to-play, par exemple, toi, j'ai l'impression que tu célèbres, alors que moi, effectivement, quand je repense à ça, je ne vois que les mauvais côtés qu'il y a pu avoir sur ce truc-là.
Bah moi, je vois Dota 2, tu vois.
Ouais, mais voilà, mais ça veut dire que pour un truc...
Non, il y en a plein d'autres.
Je schématise, mais en gros, pour un effet réellement bénéfique et positif, en fait, on met en place toute une économie et une structuration de même ce qu'est un studio de développement.
Mais tu vas dans tous les pays qui ont commencé avec le free-to-play et ils disent, franchement, c'était une honte de vendre un jeu 70€. C'est-à-dire que les gens comme nous, c'est marrant, il y a eu... qui en a parlé? C'était les mecs qui ont fait Disco Elysium. Il y a une interview qui était hyper intéressante où il disait, est-ce que vous avez été vous aussi fasciné à l'époque par Final Fantasy VII, qui est un jeu de rôle séminal pour tout le monde? Et donc, est-ce qui vous a inspiré, vous, en tant que genre de développeur de jeux vidéo? Et le mec dit, nous, on vient d'Estonie, en fait. C'est-à-dire que en fait, on n'avait pas l'argent pour acheter Final Fantasy VII. Donc, chez nous, Final Fantasy VII, c'était une marque de riche. Donc eux, ils aiment pas Final Fantasy VII, par exemple, parce que c'était une époque où le jeu vidéo était un truc élitiste. Ouais. Et évidemment, le free-to-play, ça fait chier parce que j'avais ce truc-là, mais il y a des gens qui ne pouvaient pas jouer au jeu vidéo avant le free-to-play.
Il y a d'autres moyens.
Mais ces gens-là, ils sont 1,5 milliard aujourd'hui.
Non, mais parce que là, effectivement, sur ce public-là, ça permet à des gens qui n'ont pas les ressources de se mettre à jouer au jeu vidéo.
Il y a plein de gens qui ont découvert le jeu vidéo grâce au free-to-play et qui ensuite ont investi de l'argent.
Ce que je vois aussi, c'est le nombre de studios qui se sont montés exclusivement pour traire les joueurs avec des mécaniques de free-to-play.
Oui, mais en fait, j'ai l'impression que tu compares à un système qui était vertueux et noble avant. Je suis désolé, le système d'avant était pas cool.
Non, on n'a pas dit le contraire, en fait. Mais mon Final Fantasy VII, moi j'ai pu l'acheter d'occasion 25€. Tu vois, enfin à l'époque c'était en France.
Et 25€, c'est un truc que les éditeurs détestaient, qu'ils ont essayé de tuer du marché de l'occasion.
Je l'ai payé vachement moins cher. Mais non, le marché de l'occasion, Final Fantasy VII, il est donné là.
Je visualise bien ton point de vue. C'est juste que je me dis, je vois certes quelques effets positifs qui restent à construire, par contre je vois énormément d'effets négatifs qui sont déjà potentiellement implémentables tout de suite.
100% d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'encore une fois, je suis d'accord avec vous, il y a un vrai western, mais c'est toujours pareil. En fait, c'est comme quand tu vois un nouveau modèle et que tu dis quels sont les risques de ce modèle, souvent, et on va pas rentrer dans les poujadistes etc, mais souvent t'as tendance à traiter avec beaucoup trop de tendresse le modèle actuel dans lequel t'es, qui est pas forcément un modèle juste.
C'est pour ça que je ne veux surtout pas passer pour le gars qui défend le coût des éditeurs et de 70 balles le jeu.
Tu vois, en France, quand on a le débat console PC, tu vois souvent en France le débat c'est les consoles c'est plus démocratique que les PC parce que ça coûte moins cher. Et quand tu vas en Asie, les gens disent mais c'est le luxe ultime d'acheter une machine qui ne sert qu'à jouer. C'est quoi ce truc de ouf de bourgeois? donc là t'es en train de me dire que tu vas acheter une machine 500 balles qui ne peut rien faire d'autre
que jouer
à des jeux exclusifs à cette machine que tu dois payer 70 balles. Mais vous êtes vraiment, vous êtes des richards de ouf. Et ils ont raison, ces gens-là. Ouais. Donc il faut jamais oublier aussi le système sur lequel on est, qui est pas forcément plus rose. À l'époque où on parlait justement, on avait tous ces débats sur la difficulté, les jeux d'arcade, et c'était mieux avant les jeux d'arcade. C'est un truc d'enfoiré, les jeux d'arcade. Tu vois? Et sauf que des gens, encore une fois, c'était des jeux dont le game design était fait pour te faire cracher injustement le maximum d'argent et te rendre hooked au maximum. C'est une honte. Et évidemment, avec le temps, t'as grandi avec, t'as assimilé ce système, tu dis, mais est-ce que du coup, les jeux, tu ne meurs pas? C'est pas un truc de dernière sur le jeu vidéo. Là, la NFT, je vais dire, c'est comme la bombe nucléaire ou le nucléaire, c'est un truc qui est amoral. Il va y avoir des trucs magnifiques qui vont être faits avec des trucs dégueulasses.
Oui, c'est ça le problème.
Mais ouais. il va y avoir des trucs très très intéressants. Et notamment, il va y avoir de la richesse qui va pouvoir être créée de joueur à joueur. Et c'est un truc qui est intéressant. Aujourd'hui, la richesse, elle est créée de joueur à éditeur à studio, et c'est tout. Donc je suis d'accord avec toi, Chloé. Il y a beaucoup d'éditeurs qui vont dire « ça me plaît pas du tout, cette histoire ». Parce qu'en fait, les éditeurs aujourd'hui, nous, on est les vassals des éditeurs. On vient, on leur achète leur propriété intellectuelle pour avoir le droit d'y jouer et leur reverser de l'argent, et encore reverser de l'argent dans leur in-app purchase ou tout ce que tu veux, ou les contenus cri-cray. Et le temps qu'on passe dessus, les interactions, les machins, etc., toute cette richesse, elle ne va qu'à l'éditeur. Si à un moment, elle peut aller à d'autres joueurs, je trouve ça très intéressant. Et évidemment, c'est une boîte de Pandore. Mais c'est un shift de paradigme qui est très intéressant et qui va casser le monopole, notamment des éditeurs.
La MUA, là, on parle de divertissement. Enfin, comment t'appliques ta blockchain au cinéma? Comment t'appliques ta blockchain à la musique?
Mais encore
comment t'appliques ta blockchain en fait, à la lecture?
En fait, ce que je veux dire, c'est que le contenu lui-même ne sera jamais changé. C'est pour ça que quand Daz dit j'ai peur pour la musique ne changera pas, la lecture ne changera pas.
Par contre, j'ai peur pour l'industrie de la musique.
Par contre, si un jour, effectivement, quelqu'un te dit, au sein de cette œuvre, on a créé quelque chose qui a de la valeur, là, il y a quelque chose. Mais ça ne t'empêchera pas d'écouter un album ou de lire un livre.
Non, mais tu sais que la
base de la chose ne changera jamais, en fait.
Non, mais regarde, c'est marrant parce que finalement, on rejoint une chronique de Studio 404, RIP.
Soon.
Quand on avait fait un focus sur les startups qui partaient au CES à Las Vegas avec la French Tech.
Ouais.
Et que les mecs, en fait, quand on lisait les descriptifs de chaque projet, ils te foutaient la blockchain à toutes les sauces, comme on parlait du Netflix de quelque chose ou du Uber de quelque chose, et les gars ils te foutaient la blockchain dans la traçabilité des cuisses de poulet, la blockchain sur des CD-ROM, la blockchain et en fait on en rigolait parce que c'est vraiment l'application d'un concept fort et novateur sur absolument tout ce qui existe pour voir si on
exactement.
Sait jamais. Ça peut peut-être marcher, j'essaye.
Et oui, partiront dans le mur. Et puis à côté, t'as des mecs qui s'appellent.
Non, mais là, ce que t'es en train de faire, c'est la blockchain dans le jeu vidéo.
Et là, c'est un vrai business.
Oui, et moi, ce que j'ai vraiment peur,
la blockchain dans les objets et les assets numériques, c'est un business. C'est un business immense.
Pour les jeux qui décident.
Non, mais pas que les jeux. En fait, je te parle encore une fois, les cartes numériques, l'art, etc.
Non, mais là,
c'est un business
gigantesque. Mais ça, c'est évident. Enfin, tout ce qui est de base, une notion de collectible, de traçabilité, machin, tout ça, ça ne peut que servir. Pokémon, pour moi, c'est effectivement le truc
idéal.
Et ça
revient à le jour où en stream, tu arrives à faire un truc de ouf avec ton avion et ton Cessna se crash, etc. Et que c'est le Cessna historique de ton stream et qu'un jour tu décides de le vendre, il aura une valeur. Une grosse valeur pour les gens qui t'ont suivi.
Oui, mais ça ne fonctionnera que si de base, dans le jeu auquel on joue, c'est-à-dire par exemple Flight Simulator, il y avait déjà des mécaniques de vente et d'achat d'avions entre joueurs.
Le système, c'est en fait, ces plateformes vont venir se greffer, ça va être des,
oui, mais
des middleware en fait.
Quel est le... Ouais, enfin ok, d'accord. Mais en fait, ça sous-entend quand même qu'il y a une volonté de la part de l'éditeur du jeu ou du développeur du jeu de rendre transactionnable... Vraiment, pardon pour le néologisme, mais de rendre vendable et achetable
tout
absolument
fait.
Tout asset dans son
va
jeu.
Dire ça, va dire ça à Apple.
Bah ouais. En fait, ce qui va se passer, c'est que des gars comme par exemple Microsoft, ils disent l'intérêt de Flight Simulator, c'est d'avoir à ta disposition tout le roster d'avions et de jouer avec ce qui te plaît et de t'amuser
mais,
comme
mais,
ça.
Mais ça, tu peux. C'est, en fait, encore une fois, c'est pas parce que tu peux acheter des Jordan à 1 000 $ que le marché des baskets est baisé. Si tu veux acheter des baskets pour les porter.
Non, mais d'accord.
Bon,
donc
tu l'achètes. Et ça, c'est. 99,99% des baskets, c'est des trucs que t'achètes neuf dans un magasin et OZEF.
Ouais.
Après, t'as des items rares qui existent, etc. Et qui n'empêchent pas le fait que les gens aient le droit de s'habiller avec des baskets. Nike va pas dire, oh, attendez. On a vendu des Jordan 400 balles, on vendra tous des chaussures 400 balles.
Mais bien sûr, mais tu, enfin, faut bien que tu comprennes la MUA que on le voit avec tout le monde dans lequel on vit. Si tu donnes un intérêt monétaire tout de même à des jeux vidéo, les jeux qui auront le plus grand intérêt monétaire vont être les jeux qui vont intéresser le plus. Tu vois, mettons, je prends deux jeux de cartes à la con, imagine, tu peux créer plus de valeur sur, je sais pas, Shadowverse que sur Hearthstone. Tu crois que les gens ils vont jouer Hearthstone? Non. Non, parce que sur Shadowverse, tu peux créer plus de valeur pour te racheter autre chose.
Non, en fait, tu prends le problème à l'envers. Si un jeu qui est populaire, il créera plus de valeur. En fait, les gens iront là où le jeu est le plus populaire.
Et donc, il tuera les autres.
Du coup, les nouveaux développeurs mettront
même
les
si
mêmes
le
mécaniques dans leurs nouveaux titres. Et en fait,
même si je le prends à l'envers, ça se remet à l'endroit tout de suite.
En fait,
tu vois,
c'est le système des games as a service qui, effectivement, a des effets bénéfiques, des effets de bord. L'effet de bord étant que plus tu passes de temps dans un game as a service, c'est moins de temps pour les autres jeux. Donc, il y a une bataille d'attention aujourd'hui qui est énorme. Et je suis complètement d'accord.
Et vouloir retranscrire cette attention en récompense réelle et sonnante et trébuchante, je suis pas sûr que ça soit le meilleur meilleur calcul, en fait. Parce que du coup, tu rajoutes une valeur qui, bon, qui peut que biaiser, en fait, le. Et en disant ça, vraiment, je veux pas jouer le connard poujadiste ou cocasse, mais vraiment. Non, mais
parce que, encore une fois, on est qu'au tout début. Vraiment, là, je vois que des startups un peu foireuses qui tentent des jeux nuls ou des machins et qui ont foutu de la NFT. Mais juste pour, parce que c'est pour terminer la chronique.
Qui n'était pas fini. Après, on passe au débat. Okay.
Le 2 mars, c'est-à-dire mardi 2 mars, il va y avoir des Tamagotchi en NFT qui vont être release et qui coûtent déjà assez cher. J'ai un pote là, qui est dans la crypto qui va en acheter un. Ça s'appelle des Avegotchi parce que c'est basé sur une crypto qui s'appelle Ave, qui est une crypto qui est très, très, qui a la cote, qui est technologiquement très intéressante. Et ils vont sortir des Tamagotchi uniques, numériques, et qui vont vivre avec toi, etc. Évidemment, tout va être crypto, ils vont être uniques, etc., etc.
Sur quelle plateforme? Il faudra te loguer quelque part.
C'est des plateformes exotiques. Hein. Faut que tu convertisses des Ethereum sur un wallet spécial pour être sur un échange décentralisé derrière, un swap, on appelle ça un swap.
Non, mais je veux dire, le Avegotchi, il existera bien. Non, il faudra télécharger une application.
Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Okay. Mais après, t'auras une certification. Et je suis pas loin de vouloir en acheter un. Pour l'expérience.
Pardon.
Non mais vraiment pour l'expérience et pour la science et pas pour me dire.
Et pour l'oseille, on sait jamais.
Non, parce que te dire bon, j'espère que mon Avegotchi va devenir un truc collector, je revends $1 million, c'est un peu bête. Par contre, effectivement, c'est de voir comment tout ça va grandir. Tu fais vraiment pour la science, comme les gens qui ont acheté les premiers Bitpunks, qui étaient les premières œuvres en NFT. Bon, aujourd'hui, le truc a explosé, mais à l'époque quand ils l'ont fait, ils l'ont fait en mode bon bah je vais acheter ça à $4 pour dire j'en ai un et. Ok, bon bah, ok, c'est unique et en même temps, c'est littéralement, je peux pas voir, c'est unique quoi. C'est un JPEG que j'ai acheté.
Pour tout ce qui est artistique, je vois, enfin, l'intérêt il est fou.
Oui, mais,
bien
mais,
sûr.
Mais en fait, dans le jeu vidéo notamment, c'est pour ça que je dis que les crafters, les artisans et les artistes qui sont des gens qui sont pas mis en valeur dans les jeux vidéo, les gens qui sont mis en valeur dans les jeux vidéo, c'est les performeurs et les performeuses. C'est des gens qui scorent, c'est des gens qui gagnent, etc. C'est des gens qui vont toujours plus loin. Notamment. On a commencé à voir les mêmes
dans Forza, etc., avec des gars qui étaient ultra forts pour te faire des belles skins pour tes voitures.
Exactement. Et ces gens-là, en fait, ces gens-là vont peut-être avoir un terrain de jeu, voire un terrain de job qui va être là. Parce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est pour ça que je vous dis que c'est important dans le game design, la conception de jeu vidéo, le jeu vidéo ne récompense que la performance. Et on ne l'a jamais vu autrement, parce que c'était que ça. C'est vraiment le jeu vidéo récompense littéralement la création, la patience, le craftsmanship, tout ce que vous voulez, l'artisanat. Ça peut être quelque chose qui peut être énorme aussi. Et si un jour je me dis, bah moi je suis un fan de Diablo, ça fait 10 ans que je joue à Diablo, et il y a cette meuf qui est la meilleure artiste d'armure, et je vais lui commander mon armure chez elle, et elle va me designer l'armure comme je l'ai toujours voulu, et il va falloir que je ramène tant de ressources, elle va le faire, machin, j'ai un truc certifié, c'est mon armure. Je trouve ça génial. Et cette personne-là, tout comme tu commandes sur Fiverr, tu commandes des logos ou des emotes pour ta chaîne à des gens pour $5, je vais peut-être commander mon armure à quelqu'un qui est doué pour ça. Et je voudrais récompenser cette personne.
Il n'y a pas déjà ça sur Steam en mode tu peux acheter des mods ou des skins ou
bien
des
sûr, dans Roblox, tu peux acheter. Tu peux payer le jeu, mais encore une fois,
Mais il faut que ça soit dans le jeu. Enfin, il faut que le jeu le prévoie cette mécanique aussi, oui. De toute façon.
Exactement.
C'est ça, moi, toute cette histoire, en fait, moi, je la vois fonctionner. Mais alors, tu vas pas aimer, au sein d'un jeu, voire d'un éditeur, avec une plateforme insérée au jeu qui est contrôlée par l'éditeur. Comme ça, il contrôle les transactions, il prend sa commission à chaque fois. Et ça tue notamment tout ce qui est un peu marché gris, où les mods, tout ça. Bon, les mecs, ils s'échangent des objets virtuels, mais en fait, c'est de l'argent sale, etc. Au moins, tu maîtrises les échanges, tu es sûr que tout est legit, que les joueurs peuvent s'échanger entre eux des objets, mais que tu contrôles. T'as quand même une entité de contrôle par-dessus.
C'est pour ça que je ne crois pas à un token par éditeur. Je crois pas au BlizzCoin, je crois pas au NintendoCoin, ou au SegaCoin ou au WindowsCoin. C'est pour ça que l'avenir pour moi, c'est les plateformes qui vont mettre en place ces monnaies et qui seront transversales entre les éditeurs. Et effectivement, c'est un truc qui sera au-dessus en termes de souveraineté de l'éditeur, parce que cet argent pourra rentrer et sortir de l'écosystème de l'éditeur. C'est un peu comme si à un moment t'avais une monnaie qui était. C'est comme si tu disais non, attends, le dollar, ça marche qu'en Île-de-France. Non, tu peux pas. En fait, le dollar, il marche dans tous les pays, même s'il est américain et t'as des taux de change, etc. Mais si les monnaies étaient vraiment 100% fermées entre elles dans des jardins fermés, ça s'écroulerait. Ce serait pas possible.
Je visualise plus.
Si Apple voulait faire le Apple Coin, tu ne peux payer qu'en Apple Coin pour acheter des applications des iPhones, il serait parti dans le mur. Donc à un moment, il y a un truc qui est au-dessus. Et là, ce serait pareil pour les coins.
C'est peut-être que ça n'a aucun sens ce que je vais dire, mais imaginons qu'on garde le système dont tu parlais des pixels, voilà, pour dire. Des pixel punk pour dire j'ai authentifié l'objet que j'ai crafté, etc. J'ai fait un joli truc parce que je suis un artiste au sein d'un jeu vidéo et que je vais du coup vendre une armure que j'ai créée à un joueur. Qu'est-ce qui m'empêche que cette transaction se fasse en euros? Si elle est authentifiée, on a un pixel pour dire ok, c'est authentifié.
Mais en fait, comment t'authentifies? Et surtout, ton euro coûte cher. C'est-à-dire qu'un transfert d'euro, ça coûte de l'argent à tout le monde aujourd'hui. Un des gros intérêts des crypto-monnaies, c'est que tu as des crypto-monnaies qui sont designées pour littéralement déplacer des milliards d'euros entre des banques centrales en une seconde. Tu vois, et c'est un truc qui est aujourd'hui impossible à faire. Donc la technologie va aussi faire en sorte que la
par
sécurisation...
Par contre, stop, la MEA vient pas me dire que ça coûte pas d'argent. Hein. Par contre, ce genre de technologie, hein, parce que ça coûte masse de thunes. Et ça masse de thunes et masse d'énergie aussi.
En fait aujourd'hui, donc, les crypto-monnaies modernes...
C'est pas genre, vas-y, mais un miraculeux, ça coûte rien.
Ça coûte une fraction de ce que ça coûte actuellement. Non mais je rigole pas, je suis le truc, les nouvelles crypto-monnaies notamment, ça coûte une fraction. Et t'en as une qui est littéralement faite pour ça, qui s'appelle Ripple, et elle est dédiée littéralement à ne bosser qu'avec des grosses institutions monétaires pour les aider à faire bouger des fonds énormes sur sa technologie en écrasant les coûts de transfert.
Je reviens sur mon idée de l'authentification via ce Pixel Punk. La blockchain est utilisée dans l'agriculture actuellement pour permettre au consommateur, genre quand il achète sa cuisse de poulet,
de traçabilité,
savoir, il scanne. N'empêche que sa cuisse de poulet, il l'achète en euros.
Oui, mais encore une fois, on est sur des solutions extrêmement hybrides aujourd'hui. Même quand on parle de crypto-monnaie, tout le monde a entendu parler du Bitcoin et à peu près 99% sur 100 n'ont jamais acheté de Bitcoin ou vraiment vu comment ça fonctionne, etc.
Le coup, là,
je vous montre pour la culture, le CryptoPunk s'est vendu 761 000 dollars il y a une semaine. Voilà.
Ah, effectivement, c'est il est même pas punk, hein, il a juste une casquette en plus.
Voilà. Mais effectivement, l'intérêt, c'est qu'à terme, ta monnaie, intégrée dans ta monnaie, t'es la sécurisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en fait. Et c'est là l'énorme révolution, c'est que les crypto-monnaies comme les NFT sont des choses qui te font la transaction, qui te font la décentralisation et qui te font la sécurisation et la certification en même temps, de manière transparente pour toi. Et ça va être une révolution gigantesque.
La MUA, je crois que le conseil a tranché. Le conseil n'est pas convaincu.
Ouais. Je savais, hein, j'avais annoncé. Si Timothy Tigre avait été à côté, il aurait dit c'est génial, on va faire de l'argent.
Je vais vous dire, il y a un adage qui raconte lorsque t'es jeune, si t'es pas de gauche, t'as pas d'amis. Lorsque t'es vieux, si t'es pas de droite, t'as pas de cerveau. Et j'ai l'impression que t'es en train de vieillir, la MUA.
Le problème, c'est que tous les enfants, techniquement, sont de droite et que moi, je suis de gauche alors que je suis vieux, donc je suis baisé déjà de base. Mais mais en fait, c'est. Oui, le concept idéaliste et humaniste est chouette. Mais en fait, on sait très bien comment ça va tourner. Et
tu sais, là,
ça va être préempté par des connards. Et voilà,
les crypto-monnaies, t'as plein de gens qui sont là parce qu'ils sont des idéalistes. À la base, la crypto-monnaie, c'était pour dire justement, on va faire exploser la centralisation des monnaies, on va aider les pays africains,
et
etc.
Qui permettent aujourd'hui d'acheter des armes et de la drogue, je suis d'accord.
Mais aujourd'hui, non, mais surtout, c'est 80% de gens qui sont là pour faire des bénéfices rapides.
C'est de la spéculation, je suis d'accord. Mais là, c'est différent.
L'argent aide à structurer les sociétés et puis l'argent aide aussi à.
Non, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je suis pas en train de dire il faut annihiler les crypto-monnaies. Moi, je suis complètement d'accord pour que ce truc-là coexiste avec un système bancaire pour l'instant centralisé et qui potentiellement peut-être s'hybrider, voire se métamorphoser. Là, par contre, on prend un truc qui existe déjà et on n'essaie pas de faire autre chose, on essaie juste de pervertir une couche de transactions monétaires sur un machin.
En fait, c'est pour ça que je vous dis...
Le jeu vidéo, c'est du temps que tu passes, du divertissement.
Mais ce que vous voyez aujourd'hui, en fait, vraiment, parce qu'on réfléchit avec les critères d'aujourd'hui. Vraiment, c'est pour ça que
je veux pas réfléchir en ratio rentabilité sur ton passé, tu vois.
En fait, quand je te raconte ça, le premier réflexe qu'on a, c'est de prendre ce qu'on connaît et d'appliquer ça à ce qu'on connaît, de dire moi je joue à Diablo, ok j'ai les NFT. Ce que je vous explique, c'est que la conception business, mais la conception artistique des jeux va changer autour de ça. Donc en fait, on va être sur des jeux qui peut-être dans 5-10 ans seront très différents de ce qu'on peut imaginer.
Et est-ce que ça changera en bien ou en mal, en fait? Est-ce que tu vois, c'est ça le truc, qu'effectivement il y a pas
forcément de bien et de mal.
Il y a pas de juge de paix.
En tant que joueur de jeux vidéo, je trouve qu'en 2020, en tant que joueur de jeux vidéo, j'ai beaucoup plus de choix de type de jeu, de business model de jeu et d'entrée de jeu qu'en 2000.
On l'a déjà dit, le jeu vidéo n'a jamais été aussi peu cher.
Et je peux dire qu'en 2000, quand le multi est arrivé, moi je voyais tous les articles, c'est la mort du jeu solo, c'est quoi ces jeux, il faudra forcément des connexions pour jouer un machin, etc. Non, il y a plein de nouveaux trucs qui sont arrivés et c'est génial, ça a pas tué les anciens.
Il y a aussi des nouveaux joueurs, mais à un moment il y aura plus de nouveaux joueurs. Hein. La planète entière va pas se mettre à jouer des jeux vidéo.
Le cloud gaming, on en a beaucoup parlé, tu vois, le cloud gaming, c'est quoi les défauts du cloud gaming, ça a changé et toujours pareil. Le cloud gaming, c'est beaucoup plus que juste dire des gens pourront jouer, mais le cloud gaming va faire exploser
le
nombre de joueurs.
Le truc de l'âme, potentiellement, si tu étends un tout petit peu, on est à deux doigts de l'oasis dans Ready Player One, et franchement, c'est pas une vision du monde que.
Oui, c'est-à-dire,
je me log pour finalement générer de la richesse et potentiellement payer mes factures IRL parce que mon jeu, je suis en train de faire de crafter des armures et je le mets avec un casque et ensuite je sors tous les tropes les plus éclatées du monde sur les joueurs et les gamers et machin.
En fait, je dirais pas que c'est quelque chose de droite, je dirais que c'est extrêmement libéral en fait.
Et le libéralisme.
Ah mais tu peux avoir tu peux être de droite
conservatrice. Je vois pas la différence entre quelqu'un qui va dire bon bah aujourd'hui je vais j'ai une commande pour faire une affiche de film et je vais faire ma commande pour faire une affiche de film pour donner un client et quelqu'un qui dit bah j'ai une commande pour une armure et je vais faire ma commande pour une armure je vais donner un client.
Ça c'est très bien en fait, si t'es armure man. Le truc que je me dis c'est qu'est-ce qui se passe si en fait aujourd'hui le gamin enfin dans ce futur là que tu nous dépeins qui est peut-être très intéressant par ailleurs hein, parce que moi j'ai toujours rêvé d'être dans l'oasis de Ready Player One, mais qu'est-ce qui fait que un gamin par exemple de 14 piges va se dire ce jeu-là, non, je vais pas y jouer en fait parce que je peux pas monétiser le temps que je passe dessus. Et en fait, je ne veux jouer qu'à des jeux monétisables parce que c'est comme ça que tourne l'économie. Et en fait,
tu perds
l'intérêt du divertissement qui est juste.
Tu tournes tout le divertissement au travail.
Mais ouais, c'est ça.
Et c'est pour ça. Et
effectivement,
pour ça
Fibre là serait en train de battre des bras en disant mais c'est génial.
C'est pour ça que je crois pas à ce futur où des gens vont dire c'est quoi le plus rentable pour moi. Parce qu'encore une fois, si tu cherchais la rentabilité, tu jouerais pas aux jeux vidéo de base.
Tu sais que quand on regarde Hearthstone et que les mecs ils vont sur HS Tracker qui téléchargent un deck, ils regardent même pas comment il a été fait et tout, ils savent juste que c'est un deck qui a permis à un tel de gagner tel tournoi, donc je vais jouer avec. Mais c'est déjà que les mecs ils sont dans une notion de.
Je veux dire, il y a des gens aujourd'hui qui vendent des objets. Voilà.
Ça, c'est encore autre chose.
Il y a des gens dont le job, c'est de faire de farmer des pièces d'or dans WoW. Il y a des gens, c'est leur job.
Oui, mais c'est un job qui est à la limite de l'esclavagisme.
Bien sûr, et c'est des jobs de merde. Et ces jobs existent déjà. C'est juste pour te dire que ça ne change pas toute la phase du jeu vidéo. Des gens qui disent, ma vie, ça va être de devenir, ça va être un revendeur d'armes uniques. Dans Diablo et je vais faire ça toute la journée, ces gens-là existeront, mais te dire waouh en fait je pourrais plus jouer à un jeu si je fais pas ça, c'est faux. En fait tu parles de cas extrêmes qui existeront, qui seront là dans leur coin.
Bah c'est faux tant que le paysage vidéoludique te permet de faire autre chose. Par contre en fait à partir du moment où il y a une notion de rentabilité pour les éditeurs de jeux, on voit bien ce qui s'est passé avec le free to play, tous s'y sont tous mis. Le Battle Royale génère de l'addiction machin, tout le monde a sorti son Battle Royale et en fait à un moment donné tu vas te retrouver sur un truc qui est monolithique s'il est vraiment drivé par l'oseille. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une uniformisation du monde du jeu vidéo. On le voit sur l'Apple Arcade, par exemple, où effectivement le jeu est gratuit, mais du coup les gens, enfin ça a changé la façon qu'ont les gens d'appréhender le jeu.
Moi, je trouve
qu'il
n'y a jamais autant de types de jeux vidéo qu'aujourd'hui. C'est juste qu'encore une fois, tu regardes les blockbusters qui sont les genres dominants, et comme il y avait des genres dominants toutes les époques, aujourd'hui le genre dominant c'est le game as a service.
Bien sûr.
Et puis il y a 20 ans c'était les RTS ou les jeux multiples, et avant c'était les grands jeux solo, etc., les grands jeux d'aventure, le full motion vidéo avec des acteurs de cinéma, c'était l'avenir, Wing Commander, etc. Bon, les écoles changent, les super prods changent, et c'est toujours pareil. Il y a un focus énorme sur ces jeux-là, et encore une fois, tout le monde ne parle que des triple A solo de Sony, alors que les jeux qui font le plus de fric, c'est Roblox, tu vois. Donc il faut pas qu'on tombe aussi dans nos biais de dire je vois ce truc là parce qu'il est très visible pour moi et donc en fait c'est la seule école. C'est pas vrai, dans le jeu vidéo t'as toujours plus d'écoles. Des gens qui voudront avoir un labeur et faire du fric dans un jeu, si le jeu il est pas bon, personne n'ira leur acheter des trucs. Tu vois ce que je veux dire,
c'est si un montant... ça c'est une vision libérale par contre.
Mais bien sûr. Mais
si c'est pas bon, ça se vendra pas.
C'est ce qui nous sauve. C'est moi, un éditeur dit vous venez dans mon jeu parce qu'en fait dans mon jeu plus vous travaillez plus je vous donne de l'argent en plus des tokens que vous générez et que c'est pénible, les gens viendront pas en fait parce que personne ne viendra leur échanger leurs trucs, etc. C'est naturel.
Écoute, on verra quel avenir tu vas nous dépeindre. J'espère que je rencontrerai une femme avec une petite tache de naissance qui du coup la rend plus belle dans la vraie vie que dans son avatar in-game.
Si tu es dans Ready Player One, tu m'arrêtes pas de vivre.
Ce qui est terrible, c'est que dans tout ce que tu es en train de dire là, c'est un peu comme dans l'évolution du monde actuel. Au final, on suivra ce qui se fera. C'est comme l'arrivée des crypto-monnaies. Enfin, voilà, c'est arrivé, c'est machin. Il y en a, ils vont.
Mais moi, je dis, en 2020, je joue à des game series, des free to play et des jeux solo 8 bits. Donc,
un jour, comment tout ça sera intégré dans le jeu vidéo, tout ça, eh bien ça se fera, mais tu viendras pas me dire ici d'enquête latérale que si un jour ce genre de systèmes sont inclus dans les jeux vidéo ou dans autre chose, c'est pour le bien-être de la planète et le bien-être
mais
de
non,
tous.
Bien
ça
non.
sera forcément pour ouais, l'intérêt de d'une ouais, et, ou d'un grand groupe ou de l'éditeur
aura,
de
il
quelqu'un.
Il y aura toujours des FIFA fut. Il y aura toujours des FIFA fut.
Il y aura surtout voilà. des FIFA fut.
Quoi qu'il arrive,
mais il y aura des gens comme vous qui iront qui iront voir ailleurs et il y aura ailleurs. Il y aura ailleurs.
Oui, les styles de jeux vidéo ont changé, mais la fille de puterie, depuis l'invention de l'humanité, elle n'a jamais changé. Donc, de toute façon, crypto gaucho, hipster dans son machin, fils de puterie à la fin. Donc, on le prendra quoi qu'il arrive.
Dis le mec qui suce du Pokémon depuis 20 ans mais... et qui prend toutes les phases de Pokémon pour dépenser son argent.
Écoute, oui, bah très bien, mais je suis passionné, mais je dépense sciemment mon argent en tant que divertissement et la seule richesse.
Il n'attend pas un retour sur
la seule richesse que j'en tire, c'est les souvenirs que tout cela m'a créé, c'est les amitiés que j'ai créé
autour
du jeu vidéo. Ça, c'est Ken qui veut remporter les votes du journal.
La véritable richesse.
C'est Ken le populiste.
Voilà, exactement. Merci beaucoup, la MUA. Merci beaucoup.
La richesse, elle est dans le cœur.
La richesse, elle est au fond du cœur. Merci beaucoup.
Maintenant, si on peut mettre un token blockchain sur ton cœur, peut-être.
Voilà, si vous pouviez nous souscrire au Patreon, ce serait quand même très très sympathique. Merci évidemment de nous avoir écouté ici. Merci bien entendu Daz, merci Chloé,
un
merci
plaisir.
Lam, merci Ken. Sylvain,
merci Ken,
formidable
Gislain, mais bisous à Sylvain aussi, on sait jamais.
Bisous à Sylvain, il me traumatise, désolé quand il est tard. Et évidemment merci à vous tous, n'hésitez pas à passer dans notre magnifique Discord.
Faut pas donner le lien du Discord, jour, les gens le trouvent.
Ouais,
il y a un délire de recherche comme ça.
Il y a un délire de recherche, mais sachez que si vous trouvez votre lien, il est unique, authentifié avec un token
et non fongible.
Le moment où vous rentrerez sur le Discord de qualité pourra être revendu un autre jour en Bitcoin et ce sera merveilleux. Bisous à tous.
Ciao.
Ciao.